Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1957, avec l'Olympia qui fait peau neuve, deux alpinistes avalés par le Mont Blanc, la première chienne dans l'espace, Laika, Elvis, premier millionnaire du rock'n'roll, et un facteur salué comme un prince.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
De Marguerite Monod, hymne à l'amour.
En 1957, Bruno Cocatrix, le propriétaire de l'Olympia, est l'un des hommes les plus puissants de la chanson française. Il programme toutes les grandes vedettes du moment.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
Piaf, Greco, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou Billie Holiday défilent à l'Olympia. Pour Bruno Cocatrix, cette aventure a débuté il y a 3 ans.
C'est qu'un music hall ayant beaucoup de place et par conséquent dans lequel on pouvait pratiquer des prix populaires pouvait correspondre à un besoin à Paris.
Vous étiez le seul à y croire ?
Vraiment le seul, en dehors de quelques artistes qui étaient de jeunes artistes d'ailleurs, et qui m'ont soutenu et qui m'ont encouragé et qui m'ont fait confiance dès le premier programme, qui n'a pas été facile à constituer.
Et l'artiste absolument indissociable du succès de l'Olympia, c'est le jeune Gilbert Bécaud, monsieur 100 000 volts. Il a terminé son premier concert avec un bilan légendaire. 23 fauteuils cassés et une dizaine de petites culottes sur la scène. Très vite, Europe numéro 1 s'associe à l'Olympia pour créer Musicorama. Tous les lundis, jour de relâche à l'Olympia, la radio produit un spectacle diffusé en direct sur notre antenne. Le 9 janvier 1957, Musicorama reçoit la diva Shirley Bassey.
Elle est venue spécialement d'Angleterre pour un soir. Voici pour la première fois à Paris, Shirley Bassey.
Charles Aznavour, lui aussi, fait partie des habitués de l'Olympia. Il est sur scène le même jour que Shirley Bassey.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment malgré tout le mal que tu m'as fait sur ma vie, chérie, je t'aimerai.
Vous rendez-vous compte de votre chance. Oui, je sais, vous pensez à la nôtre qui assistons à ce musicorama, mais vous, il vous suffit de tourner un bouton et Charles Aznavour est chez vous. Charles Aznavour, qui du reste, vous l'entendez, ne peut plus quitter la scène. Le public de l'Olympia tient à le garder comme nous le comprenons. Je vous disais donc, tourner un bouton, c'est le miracle de la radio. Eh bien, de même, s'il vous suffit d'un déclic pour tracer la plus élégante des écritures, c'est le miracle du stylo à billes rétractable 1040 de Bignol et Farjon plaqué or.
Et voilà comment en 1957, on insère de la réclame au cœur d'un spectacle retransmis en direct. Habile. Et très vite, Bruno Cocatrix voit plus grand pour sa salle. À l'été 1957, il prépare la modernisation de l'Olympia. Et les premiers coups de pioche sont donnés par des artistes. Et Europe numéro 1 est là, bien sûr, en exclusivité.
Ah, on commence à avoir du temps.
Je dois vous dire que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je suis actuellement à l'Olympia, dans le hall du Music Hall de l'Olympia. Et il y a là une équipe de démolisseurs qui s'attaquent aux colonnes de l'Olympia. Je m'approche d'eux, mais je reconnais parmi eux Eddie Constantine, le casseur de l'écran, qui maintenant s'attaque aussi à l'Olympia. Monsieur Constantine, qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez nous expliquer?
Je casse la salle, je démolis la salle.
Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bruno Cocatrix?
Rien, vous lui en voulez tant que ça, hein? Non, pas du tout, le contraire. C'est lui qui m'a fait confiance la première fois en me mettant en vedette ici, dans la salle. Et après des années de succès de cette salle, il a gagné assez d'argent pour refaire la salle à neuf.
Mais tous les artistes n'abattent pas les murs de l'Olympia avec le même entrain.
C'est maintenant Gloria Lasso qui a repris la pioche et qui s'attaque à bras vigoureux à la colonne de bois. Gloria Lasso, vous vous sentez en forme, ça va?
Oh, très en forme, très en forme. Mais ça me fait un peu de la peine aussi de démolir cet Olympia où nous avons tous commencé.
Un peu plus loin, j'ai surpris Gilles Berbeco. Gilles Berbeco, pourquoi vous n'avez pas osé prendre la pioche aujourd'hui?
Non, personnellement, je ne suis pas fait pour démolir, mais plutôt pour les reconstructions.
Alors, vous préférez revenir le jour de la réouverture de l'Olympia?
Qui sait?
C'est pas impossible.
Parmi les piocheurs aussi, il y avait là Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, qu'est-ce que vous faisiez ici?
Moi, j'étais venu parce que je savais qu'il y avait Gilles Berbeco, Gloria Lasso, Charles Aznavour. Puis alors, moi, j'en profite pour demander des autographes pour ma sœur.
Ah bon, il aime beaucoup Gilles Berbeco.
Oui, Gilles Berbeco, et puis tous les autres artistes qui ont du talent, puisqu'ils sont passés en vedette ici, à l'Olympia. Alors, j'en profite pour demander des autographes, parce que j'aime bien voir les artistes de près en chair et en os. Je suis content.
Alors, pourquoi ces travaux? Eh bien, parce que Bruno Cocatrix parie sur l'avenir. Il veut une salle moins vieille.
Monsieur Bruno Cocatrix, vous êtes là maintenant, vous allez nous expliquer exactement quel est le but de cette opération démolition.
Cette opération démolition, elle précède une opération construction, car l'Olympia avait fait son temps, je crois, et il fallait faire une nouvelle salle.
Et pour quand est prévue exactement la réouverture de l'Olympia?
Octobre.
Et comment voyez-vous cette nouvelle salle de l'Olympia?
Merveilleuse.
Elle sera bleue et rouge.
Plus grande que celle-ci?
Aux couleurs de Paris, je
pense. Un petit peu plus grande.
Combien de places sera-t-elle?
300 places de plus.
C'est-à-dire
2004.
Deux mois plus tard, le 24 décembre 1957, le nouvel Olympia est prêt pour son inauguration. Plafond bleu, mur noir et fauteuil rouge. Ce soir-là, Bruno Cocatrix est tendu parce qu'il a programmé son poulain fétiche, Gilbert Beco. Bon, Gilbert, tu me casses la baraque, hein, Coco? Faut que tu portes bonheur à l'Olympia. Mais s'il te plaît, pas de fauteuil cassé. Hein. La dernière fois, ça m'a coûté un bras.
Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances.
Oh,
salut les copains, voyez, j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi, je pars pour l'Italie. Je vous aime bien, mais comprenez quand même, le ciel de Pantin est pauvre en oxygène. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Me voyez-vous sur des gondoles entraînées au fil des canaux de tarentelles en barcarolle, dansant le soir au bord du Lido, marchant sur le pavé de Rome comme un Anglais aux Champs-Élysées. Là-bas je serai un autre homme, là-bas je serai l'étranger qui viendra visiter l'île de Capri et puis la tour de Pise, Naples et Pompéi et 120 000 églises, des châteaux antiques et l'Adriatique. Mais après tout, qu'importe, il faut que j'emporte dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Salut les copains, allez, n'ayez pas de rancune. L'Italie c'est loin, mais ce n'est pas la lune. Maintenant c'est l'heure, et pour pas qu'on pleure, je m'en vais, c'est sage, faire mes bagages dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie.
La 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 la.
Allez, au revoir les gars.
La 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 la. La la la
la la. La la la
la la. La 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 la.
Des cartes postales en couleur.
La 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 la. La 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 la.
Salut les copains, j'ai toujours mauvaise mine, j'ai raté mon train. Adieu les mandolines. Je partais en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Je partais pour l'Italie.
C'était Salut les copains, interprété par Gilbert Bécaud lors de la réouverture de l'Olympia en 1957. 2 ans plus tard, ce sera le titre de l'une des plus célèbres émissions d'Europe numéro 1.
Raconte l'année 1957.
Le 1er janvier 1957, deux alpinistes de 23 et 24 ans, François Henry et Jean Vissandon, sont piégés par la neige à 400 mètres du sommet du Mont Blanc. 5 jours qu'ils survivent dans des conditions dantesques. Un hélicoptère a tenté de les récupérer, mais il vient de s'écraser. 4 secouristes sont largués sur la zone du crash de l'hélico.
Les conditions sont mauvaises, on les place à l'abri dans la carlingue de l'hélico avec des vivres, on ne peut pas faire mieux.
Les rescapés du crash d'hélicoptère sont donc transportés au refuge du Valo. Et ce 2 janvier 1957, à Chamonix, tout le monde retient son souffle pour savoir si on pourra récupérer les 2 alpinistes vivants.
Ici Jacques Paoli qui vous parle de Chamonix, Europe numéro 1. Cette journée, une journée d'attente, aura été décevante. Et une 13e nuit dans la montagne a commencé ce soir pour Vissandon et Henry, pour le commandant Santini et pour l'adjudant Blanc. En effet, il y a quelques instants, je me trouvais sur la patinoire de Chamonix et sur cette patinoire, près de moi, il y avait 2 hélicoptères. Ces 2 hélicoptères à réaction, de type Alouette, venaient d'arriver de Mont-de-Marsan. Ils n'ont pu se poser plus bas dans la vallée sur le terrain du Fayet car il y avait une brume très dense, une brume intense et ils ont été obligés de monter plus haut et de venir se poser sur cette patinoire de Chamonix. On les a préparés, on a adapté à leur train d'atterrissage des traîneaux qui leur permettront de se poser dans la neige si besoin s'en fait sentir. Ils étaient prêts à partir, les équipages étaient à bord et le colonel Nollet a dû faire un signe d'abandon. Les hélicoptères ne pourraient pas ce soir faire la reconnaissance qui était prévue, la brume retombait sur Chamonix.
C'est plus possible ce soir, mon
colonel. Oh, maintenant c'est terminé, regardez le brouillard est venu subitement, heureusement qu'il n'était pas décollé, je serais inquiet.
Vous avez pratiquement manqué d'une vingtaine. De minutes, quoi.
Il a manqué une demi-heure
pour pouvoir faire le voyage ce soir. C'est très dur pour nous, mais nous partirons demain. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas encore risquer encore du matériel et du personnel.
Le soir de cette tentative avortée, Jacques Paoli d'Europe numéro 1 parvient à enregistrer les échanges radio entre les secouristes.
Pour demain, si les conditions météorologiques sont
ce qu'elles sont à l'instant, c'est-à-dire bonnes. Il faudrait que les reconnaissances se fassent suffisamment tôt et que les opérations d'évacuation de blessés commencent très tôt. Il faudrait que pour qu'on ait la possibilité d'évacuer les blessés entre 8 et 9 heures, ce qui serait parfait. Parce qu'au cours de la journée, on risque de nouveau un mauvais temps. Stop. Bien compris, évidemment, sous toute réserve, n'est-ce pas, sous toute réserve que les conditions atmosphériques le permettent, ça vous plaît. D'autre part, en ce qui concerne la plateforme au-dessus de Valo, nous allons demain matin, au moment de la reconnaissance, l'aménager. Bien compris, je répète, dès demain, vous aménagerez la plateforme actuellement prévue, que vous avez prévue, et la baliserez avec la poudre rouge aux angles, et également avec des feux de Bengale.
Pour cette nouvelle tentative de sauver les deux alpinistes français, les militaires misent sur des hélicoptères dernier cri et très maniables, des alouettes.
Vous avez pu suivre, je l'espère, cet échange radio et vous avez pu comprendre que l'opération de sauvetage demain se fera en plusieurs temps. Une reconnaissance, le sauvetage des deux pilotes accidentés du Sikorsky qui se trouvent au refuge Valo, et enfin le sauvetage de Vincent Don et Henri. Et je veux signaler que la météo nous promet pour demain une légère éclaircie du temps dans la matinée et qu'enfin au cours de l'été, les alouettes, ces hélicoptères qui vont être mis en service demain, ces hélicoptères ont réussi l'atterrissage sur cette plateforme dont parlaient les deux correspondants militaires au-dessus du refuge Valo. Mais ce soir, je ne peux m'empêcher de penser aux parents des deux accidentés, des deux naufragés de la montagne, de Vincent Don et Henri, ces parents qui sont dans le même hôtel que nous, qui attendent depuis 12 jours déjà, qui savent que leurs fils vont passer une 13e nuit dans la montagne, qui sont à quelques 10 ou 12 kilomètres par les chemins de montagne de leurs enfants, à 4 kilomètres à peu près à vol d'oiseau, et qui ne peuvent rien pour leurs enfants. Ici Jacques Paoli qui vous parlait de Chamonix, Europe numéro 1.
Le lendemain, la météo est plus favorable. Le ballet des alouettes reprend. Mais dans quel état vont-ils retrouver les deux alpinistes?
Sur la patinoire de Chamonix, transformée en terrain d'atterrissage, les hélicoptères se posaient tour à tour, rapportant leur cargaison humaine. Chapaz et Munster, parmi les premiers, regagnaient la vallée, heureux d'avoir sauvé Santini et Blanc à bout de force, qu'ils avaient remonté sur 500 mètres en 8 heures d'efforts surhumains. Ils racontaient leur désespoir d'avoir dû laisser dans la carlingue de l'hélicoptère Vincent Don et Henri moribonds et qu'ils jugeaient intransportables.
Ça a été un choix terrible et cruel. Ils ont sauvé l'équipage de l'hélicoptère, mais pas les deux jeunes alpinistes Vincent Don et Henri, qu'ils ont abandonnés à la mort.
Dans une dernière reconnaissance, le secrétaire d'État à l'air, M. Laforest, et le commandant Le Gall volaient vers l'épave enfouie dans la neige où Vincent Don et Henri finissaient d'agoniser. Rien ne bougeait plus dans cette carlingue abandonnée. Bientôt, la neige la recouvrirait et il ne resterait, pour plusieurs mois, plus de traces visibles de la tragédie. Seul demeurerait dans la mémoire des familles le souvenir de Vincent Don et d'Henri. La montagne s'était vengée. Pendant tout l'hiver, il n'y aurait plus sur leur tombe provisoire que le grand silence blanc.
Trois mois plus tard, dans des conditions beaucoup plus faciles, les familles de Vincent Don et Henri organisent une expédition pour récupérer les corps des deux alpinistes.
À 4000 mètres d'altitude, le frère d'Henri a pu découvrir sur la banquette bordée de crevasses la roue de l'hélicoptère, seule trace visible de l'épave. C'est dans cet insolite sépulcre que les sauveteurs durent abandonner Vincent Don et Henri, presque déjà figés dans la mort. Deux caravanes à ce moment s'ébranlaient vers le sommet, l'une de 18 hommes, l'autre de 8, qui, à pied d'abord, à ski ensuite, passant par deux chemins différents, convergeaient vers le même but. Par petites cordées de 3 ou 4, on les voyait, tandis qu'ils franchissaient les moraines, devenir dans cet univers hostile, hérissé de crêtes et semé de crevasses invisibles, des points minuscules sur l'immensité de la montagne. Ils se rejoindraient au refuge des Grands Mulets, où ils devaient passer la nuit. L'aube les retrouvait réunis autour de l'hélicoptère accidenté, transformé en cercueil. Tour à tour, ils dégageaient les deux cadavres momifiés par le froid. Tour à tour, deux traîneaux s'en allaient sur cette terrasse de neige où la roue de l'épave marque encore la place du drame. Le lendemain, dans la petite église, Chamonix tout entier, guides en tête, s'inclinait devant la dépouille de ces deux téméraires qui avaient voulu, dans la fougue de leur jeunesse, défier la montagne. La montagne s'était vengée. Elle n'avait rendu que deux morts.
Ce drame entraînera des changements dans l'organisation des secours en montagne. L'année suivante, la gendarmerie créera des unités spécialisées, les pelotons de gendarmerie de montagne, les PGM.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
En octobre 1957, les Russes marquent un point dans la conquête de l'espace. Ce bip-bip que vous entendez est émis par Sputnik, le premier satellite placé en orbite autour de la Terre. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit les Américains qui réalisent cet exploit. C'est raté. Ce sont les Russes qui marquent le premier point.
Ici, Moscou. Des stations soviétiques captent les signaux qui parviennent du satellite artificiel au moment où il passe au-dessus du territoire de l'URSS.
Le lancement du satellite artificiel est non seulement un très grand événement scientifique dans la vie de toute l'humanité, mais c'est aussi la première étape nécessaire à la conquête des espaces interplanétaires. C'est la première étape nécessaire du vol à la Lune.
Ce premier satellite, envoyé à 9000 km au-dessus de la Terre, est une sphère de 58 cm de diamètre et qui pèse 83 kg. Il a fait le tour du globe en 98 minutes.
Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Sputnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune. Ce Sputnik, chacun voulait l'apercevoir. Et les préoccupations de la vie quotidienne passaient au second plan devant cette petite boule de métal qui se promenait dans l'espace. Mais c'est probablement en Amérique que Bébé Lune a fait le plus gros bip. Pas un de ces passages qui n'ait mis tous les centres d'écoute des États-Unis en alerte.
Pour les États-Unis, la réussite du Sputnik est un choc. Et les Américains ont à peine le temps de digérer que les Russes enchaînent un mois plus tard avec Sputnik 2.
Ici Moscou, dans les bandes des 16, 19, 25 et 31 mètres. Chers auditeurs, l'agence TASS vient d'annoncer à l'instant que le deuxième satellite artificiel a été lancé aujourd'hui en URSS. Le texte intégral de ce communiqué sera diffusé dans nos prochaines émissions.
Et là où les Soviétiques font encore plus fort, c'est que dans Sputnik 2, ils ont placé un être vivant, une chienne, Laïka.
Cette chienne, qui est une chienne esquimau, au poil roux, du nom de Laïka, une chienne au museau très allongé, est un animal qui a déjà subi de nombreuses expériences de lancement en fusée. Elle est déjà, on peut dire, un vieux pilote des espaces cosmiques. Elle est montée déjà à 250 km d'altitude en cabine étanche et revenue au sol. Et les savants soviétiques qui me parlaient de la chienne Laï me disaient qu'après chaque expérience, elle redescendait, dès qu'on ouvrait son scaphandre, elle se mettait à danser de joie. La chienne se trouve munie actuellement d'une combinaison anti-G, c'est-à-dire anti-accélération, très exactement comme les pilotes d'avions supersoniques.
Une chienne dans l'espace, pour les scientifiques, c'est une étape capitale dans la conquête spatiale.
Du point de vue biologique, c'est très important cette expérience nouvelle.
Oui, c'est tout à fait capital. Ne serait-ce que parce que pour la première fois, on est en présence d'un être vivant qui est dans un milieu sans pesanteur. Jusqu'à présent, on n'avait jamais pu artificiellement sur Terre créer un milieu sans pesanteur pendant un temps appréciable. Au contraire, à bord du satellite, il y a une pesanteur relative rigoureusement nulle, c'est-à-dire que le comportement de cet animal est du plus haut intérêt pour savoir dans quelles conditions vivront demain les passagers des futurs voyages interplanétaires.
Reste une grande inconnue, comment récupérer Laïka? Pour le scientifique Lucien Barnier, ça sera délicat.
Il est certain que là se pose un problème qui, je pense même, l'emporte en importance et en difficulté sur le problème du lancement. Parce qu'il s'agit de faire revenir un corps céleste, qui est le conteneur avec la chienne à l'intérieur, d'une vitesse astronautique qui est de l'ordre de 7 km seconde, ce qui correspond tout de même à des vitesses de l'ordre de 26 000 km à l'heure. Il s'agit de le ramener au contact de l'atmosphère à une vitesse infiniment inférieure.
Pour qu'il ne s'échauffe pas,
pour qu'il ne se volatilise pas. Alors là, le procédé doit être celui de l'utilisation de la réaction non plus comme un moyen d'accélération, mais comme un moyen de décélération, c'est-à-dire de freinage, oui, de façon à ce que le conteneur arrive en contact avec les couches de l'atmosphère dans des limites tolérables, comme vous le disiez tout à l'heure. Et alors, nous nous trouvons devant un exploit qui est familier à la chienne Linda. Elle a effectué des sauts en parachute, larguée par des fusées stratosphériques des dizaines de fois. Par conséquent, elle se retrouve dans une situation absolument ordinaire pour elle, et elle sera reçue sur la Terre avec les honneurs qui lui sont dus.
Mais 10 jours après le lancement de Sputnik 2, une dépêche de l'agence TASS soviétique vient doucher l'espoir de retrouver Laïka vivante. La chienne Laïka, premier être vivant à avoir voyagé dans l'espace, est morte par manque d'oxygène. Mais ce fut pour elle une mort douce. En réalité, Laïka est morte 7 heures seulement après le lancement de Sputnik 2. 6 ans plus tard, la France enverra à son tour dans l'espace la chatte Félicette. Et elle rentrera vivante à la maison. Et aujourd'hui, à Strasbourg, une statue de bronze d'1,75 m à l'effigie de Félicette trône dans le hall de l'Université internationale de l'espace.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
En 1957, la conquête spatiale est une parfaite illustration de ce qu'on appelle la guerre froide. Deux mondes qui s'affrontent, l'Est et l'Ouest. Mais parfois, il y a des passerelles. En août 1957, la rédaction d'Europe numéro 1 repère des lycéens soviétiques en vacances en France.
Depuis un petit peu plus de 15 jours, 9 lycéens soviétiques, accompagnés de 2 de leurs professeurs, je crois, sont en vacances en France. Ils ont passé ces vacances à Bagnères-de-Bigorre, dans une colonie de vacances, c'est cela ?
De l'Académie de Paris. Oh, c'était très intéressant, parce qu'ici, nous avons passé 15 beaux jours avec 40 Français. Et on a fait beaucoup de belles excursions, et puis le plus essentiel, c'est ce qu'on avait une possibilité d'avoir les contacts avec les jeunes Français.
Alors que retirez-vous de ces contacts ?
Nous voyons que la jeunesse de France ressemble beaucoup à la jeunesse soviétique.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je pense presque la même chose que mon camarade. Nous avons vu que tous les Français qui nous accompagnaient, ils veulent la paix, ils veulent l'amitié. Et que tous les Français, ils étaient très aimables.
Vous parlez tous remarquablement bien le français. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Nous étudions la langue française depuis la deuxième année des études. Nous avons 6 heures passées. 6 heures par semaine de la langue française.
Évidemment, ces jeunes soviétiques en vacances en France sont surpris par quelques-uns de nos us et coutumes.
On boit beaucoup plus de vin.
On mange beaucoup moins de soupe. C'est...
Vous mangez bon. Davantage de soupe.
Ah oui.
Fait quel plat français que vous préférez ?
Ça maintenant, c'est difficile de choisir parce que vous en avez beaucoup comme nous aussi.
Si vous aviez parfaitement compris la France, vous auriez répondu à vous le pourfoi, le beefsteak frites, car ça c'est typiquement français.
Et évidemment, suite une question inéluctable. Et les Françaises alors ?
Et que pensez-vous des jeunes filles françaises, puisque vous êtes tous des garçons là,
Nous avons 2 fois été au foyer des jeunes lycéennes, mais c'est jamais que nous avons rencontré les filles françaises, parce que nous sommes toujours avec les... garçon.
Avec lesquels vous avez discuté.
Ah oui.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que ce voyage va se poursuivre très agréablement pour vous et que vous pourrez rapporter en Union soviétique des souvenirs et des témoignages pour vos camarades.
Évidemment, comme ils sont en France, ces jeunes soviétiques ratent un événement à Moscou, le Festival international de la jeunesse, qui consacre une musique venue d'Amérique. Le rock and roll.
Les quelques 100 000 participants du Congrès mondial de la jeunesse ont même pris le Kremlin et la Place Rouge comme piste de danse. Est-ce un effet de l'absence de M. Khrouchtchev ? Les danses classiques ont souvent cédé le pas. Et le plus gros succès a certainement été obtenu par des rock'n'roll très spécifiquement USA. Ce qui ne veut pas dire non plus que la diplomatie occidentale marque un point. Le tout sous un feu d'artifice à sensation qui dut faire voir à certaines ombres 36 chandelles.
Même à l'Est, la tornade rock'n'roll emporte tout. Et en 1957, il y a un rocker auquel personne ne résiste. Il s'appelle Elvis Presley. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Elvis Presley, 22 ans, met l'Amérique en transe. Et ses participations au Ed Sullivan Show, l'émission de télé la plus suivie aux États-Unis, attirent plus de 50 millions de téléspectateurs.
Ladies and gentlemen, we have a big show, a real big show, with Elvis Presley headlining tonight. Promise. And during the show, Elvis is going to appear all the way through the show because sometimes people tune in a little late. We've got a great all-star show going along with him, but right now, singing a medley of some of the songs that you enjoy to the extent of boosting them over the million mark, here is Elvis.
Au cours de l'année 1957, Elvis Presley classe 5 titres en tête du hit-parade américain. Il devient le premier millionnaire du rock. Et d'ailleurs, c'est avec cet argent qu'il s'achète un manoir à Memphis, Graceland. La même année 57, on retrouve Elvis au cinéma dans le film musical Le Rock du Bal. C'était Jailhouse Rock par Elvis Presley en 1957, tube qui figure dans le film Le Rock du Bagne avec le King, bien sûr, son plus grand succès au cinéma.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
Dans nos archives, au sous-sol d'Europe 1, j'ai trouvé deux petites histoires qui racontent à leur manière l'année 1957. Celle-là, par exemple, l'histoire d'un mariage à Troyes dans l'Aube qui se termine à l'hôpital.
André Théier qui vous parle de Troyes. Êtes-vous superstitieux? Pensez-vous que se marier un 13 puisse porter malheur? Croyez-vous au mauvais présage? Eh bien, samedi dernier, 13 juillet, un bonnetier de Troyes s'est marié. Lui non plus ne croyait pas au chiffre 13. Et pourtant, alors qu'il attendait avec sa fiancée que monsieur le maire veuille bien écouter leur oui respectif, monsieur Valbert Marchal a reçu un tableau sur la tête. Mais j'ai retrouvé monsieur Marchal et sa charmante jeune femme chez eux. Monsieur Marchal vient de sortir de l'hôpital. Il est allongé et c'est à la nouvelle Madame Marshall, bien plus vaillante, que je vais poser quelques questions. Racontez-moi comment s'est passé cet accident.
Bien, nous étions arrivés à 5 heures à la mairie. Nous attendions pour nous faire marier, quoi. Il y avait notre couple aussi qui était avec nous et nous parlions du fameux tableau.
Oui, c'était un tableau qui était au-dessus de vos têtes, quoi. Et qu'est-ce que représentait ce tableau?
Ce tableau représentait le forgeron qui était en train de taper sur son enclume.
Ah bon? Alors donc, un gros tableau, un petit tableau?
Oui, un gros tableau qui fait environ 2,80 m sur 1 mètre.
Eh oui, vous le voyez venir. Le tableau est tombé sur le carafon du marié.
Alors brusquement, le tableau s'est décroché. Alors j'ai appelé du secours pour m'aider à enlever d'abord le tableau. Et on a vu qu'il était vraiment pas bien. Alors sitôt l'ambulance est arrivée, on l'a transporté à l'hôpital. Et dans l'intervalle, ma belle-sœur s'est évanouie.
C'est elle qui s'est évanouie, c'est pas vous, monsieur Valbert, qui vous êtes évanoui, vous.
Moi, je ne me suis pas évanoui du tout. C'est plutôt les gens qui étaient autour de moi qui étaient plus mal que moi encore.
Et vous avez été gravement blessé?
Non, tu t'es touché en 6 places, à la cuisse principalement et puis à la poitrine.
Bon, c'est ça, c'est le tableau qui pèse une trentaine de kilos qui vous a...
Le journal. 35 kilos, il pesait.
Oui. Et de toute façon, vous n'êtes pas superstitieux?
Pas superstitieux du tout.
C'est ça, alors donc vous n'avez pas compté ça pour un mauvais présage et immédiatement vous êtes quand même marié à l'hôpital, je crois.
Oui, et j'espère beaucoup de la vie encore.
Connais bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ses bras-là.
Un mois plus tard, dans le nord de la France, à Sangatte, on célèbre en fanfare le départ à la retraite du facteur. On n'avait jamais vu pareil événement pour un facteur en France. Et du coup, Europe numéro 1 est là, bien sûr.
Ici, Francis Logat qui vous parle de Sangatte. La fanfare de Sangatte, ou du moins une trompette et un tambour, salue l'arrivée du héros du jour, debout dans une voiture emplie de fleurs. La voiture décapotable est suivie du cortège officiel, une dizaine de voitures décorées, et le tout est encadré par un escadron de motocyclistes et de scooteristes. Le héros du jour, c'est Étienne Duchâteau, le facteur de Sangatte, que la foule vient d'acclamer. Pour faire honneur à son facteur, le village de Sangatte a pavoisé sur tous les murs, sur toutes les voitures, dans toutes les vitrines, une affiche jaune avec ces mots en gros caractères « Honneur à notre facteur ».
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettant des mois, chacun se dit peut-être... Il y en a une pour moi, voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, bois, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur, son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur, il apporte le journal et son bonjour matinal.
Cette petite histoire marque la place du facteur dans la vie des Français en 1957. Très peu de gens à l'époque ont le téléphone. Et souvent, le facteur est le seul lien avec le monde extérieur. Et donc, c'est un héros.
Maintenant, dans une salle ornée de drapeaux, de banderoles et de photographies du facteur, M. l'adjoint au maire va prononcer son discours.
Monsieur le lieutenant des pompiers, mesdames, messieurs, c'est avec vous, mon cher facteur, qui rompt ces quelques paroles de sympathie à vous qui, pendant 15 années avec un rare dévouement, avez desservi notre chère commune de Sangatte. 35 km chaque jour à vélo, c'est une belle performance. Si vous m'en croyez, les calculs que vous avez fait 4 fois le tour de la Terre, sans jamais quitter ni Calais ni Sangatte. Je voudrais rendre hommage à votre épouse, qui n'avait pas souvent mangé en votre compagnie, car à midi, vous étiez sur la route, appuyant sur les pédales et déjeunant en 4e vitesse d'un casse-croûte de français moyen. Oui, mon cher Duchâteau, Sangatte vous regrettera. Vous êtes un facteur comme on n'en a fait plus, car dans tous les temps, vous assurez votre tournée. Le froid peut pincer. Vous êtes là, sur votre vélo, pensant que le courrier ne peut attendre. Et en même temps que vous, vive Sangatte, vive la sympathie corporation, des facteurs et vive la France.
Évidemment, le facteur Étienne Duchâteau, héros du jour, n'échappe pas à un petit discours.
Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le lieutenant des pompiers, mesdames, messieurs, je ne sais comment vous remercier de toutes ces marques de sympathie.
Pour la première fois en France, une commune rend ainsi hommage à son facteur. Et pourtant, je ne suis qu'un facteur comme les autres. Aujourd'hui, vous m'avez réservé un accueil royal. Encore un peu, je me serais pris pour le président de la République ou pour la reine d'Angleterre, si celle-ci, évidemment, portait un képi de facteur dans les grandes occasions. Merci pour tout ce que vous avez fait. Jamais je n'oublierai mon cher Sangatte. À mon tour, je lève mon verre en criant bien haut. Vive Sangatte, vive les PTT, vive les facteurs en exercice ou en retraite, et vive la France.
L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui, hein. Tiens, voilà le facteur. Pour garder son amitié, soyez complètement timbré. Le printemps fait naître les lettres d'amour, et pour les connaître, on attend toujours. Mais par la fenêtre, un jour le facteur vous remet une lettre. Zut, c'est le percepteur. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Merci bien, facteur. Et à demain.
C'était un extrait de Tiens, voilà le facteur par Bourvil qui va refermer notre quatrième épisode. Et à la manœuvre, comme tous les jours, j'avais aujourd'hui Guillaume Maury, Julien Pichenet et le réalisateur Boris Paczynski. La suite de notre exploration de l'année 1957 dans le cinquième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.